Martin Luther King est venu à Lyon en mars 66, exactement le 29 mars 1966, donc j'avais 16 ans.
Christian Delorme, prêtre dans le diocèse de Lyon, auteur du livre « Priez 15 jours avec Martin Luther King ».
Il a animé une rencontre, un meeting à la Bourse du Travail de Lyon. Ma mère m'avait laissé y aller, elle était même venue avec moi. Et après avoir écouté cet homme, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de l'écrire. C'était une période où il était déjà très contesté aux États-Unis. On pourrait dire contesté sur sa gauche par à la fois le mouvement des musulmans noirs et par le mouvement du pouvoir noir. Et donc dans ma lettre, sans doute écrite en français, parce que j'étais pas bon en anglais à l'époque, je suis pas davantage aujourd'hui, je l'interrogeais sur cette question du pouvoir noir, et il m'a répondu, je peux dire à ma grande surprise, en m'écrivant « Je ne crois pas au pouvoir noir, je ne crois pas au pouvoir blanc, je crois au pouvoir des hommes ». Et il continuait en disant « Il est important pour notre cause qu'à travers la surface de la Terre, il y ait des gens qui nous soutiennent ». Et il m'a remercié pour cela. Et cette lettre toute simple, finalement, ben, bien sûr, moi je l'ai reçue un peu comme un passage de témoin, quoi, comme presque un envoi en mission. Et elle a solidifié, disons, mon lien avec Martin Luther King.
Je n'oublierai jamais un moment à Birmingham où un policier blanc a abordé une petite fille noire de 7 à 8 ans qui manifestait avec sa mère. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» lui a demandé le policier d'un ton rogue. Alors la petite fille l'a regardé droit dans les yeux et a répondu « Liberté ». Elle ne savait même pas prononcer le mot, mais elle savait de quoi il s'agissait. C'était magnifique. Bien des fois, quand je me suis trouvé dans une situation douloureusement éprouvante, le souvenir de cette petite fille m'a réconforté. De même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une tournée dans 8 communautés de l'État du Mississippi, et je conserve devant les yeux depuis lors l'image de ces sans-le-sous, de ces illettrés. Je revois l'expression de leur visage, leur volonté profonde et courageuse de briser les moules du passé et de devenir des gens libres. Je suis heureux de pouvoir participer à ce grandiose spectacle, car c'est sur cette scène que se joue la destinée de l'Amérique. Si le problème n'est pas résolu, l'Amérique sera entraînée sur la voie de sa propre destruction. Mais s'il est résolu, l'Amérique se trouvera tout aussi sûrement engagée sur la grande route qui mène à la réalisation du rêve formulé par nos pères fondateurs, quand ils écrivaient « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes ».
Serge Monnat, toute la démarche d'un Martin Luther King est avant tout une démarche éthique. Qu'est-ce qui est spécifique à la réflexion de Martin Luther King dans tout cela?
Sans aucun doute, c'est à l'éthique qu'on associe le nom de King avant tout, parce qu'on l'a découvert, connu, on a retenu son nom comme celui d'un homme ayant mené avec tant d'autres des combats, des marches, où la résistance non-violente était le moyen choisi, préparé et souvent ayant mené à de réelles victoires. Pour King, il s'agissait de trouver et d'user d'un moyen qui annoncerait dès le début la fin recherchée. C'est-à-dire que si on souhaitait véritablement, peu à peu, établir une véritable intégration, si vraiment l'on visait la justice, il fallait employer des moyens intègres et justes.
Donc finalement, dans cette dynamique-là, tout recours à la violence n'était pas possible.
Alors, le recours à la violence est dès le début posé comme impossible. Il doit être refusé. Maintenant, je ne crois pas qu'il faut considérer King comme l'inventeur de tout cela, comme celui qui tout à coup a cette idée géniale. Il faut avoir un tout petit peu de mémoire, ou tout du moins rappeler l'histoire. C'est-à-dire que le boycott des bus commence non pas sous l'impulsion de King, mais à cause d'une femme qui refuse de se lever, qu'on décide d'un boycott qui pourrait durer quelques jours, que ce boycott va durer bien davantage, et que dès ce moment-là, et très vite où on entre dans cette période où King devient le porte-parole d'un mouvement local à Montgomery, mais là, il est rejoint par des hommes qui connaissent très bien les techniques de résistance non violente.
Donc là, des Noirs.
Des Noirs et des Blancs, notamment liés au mouvement de la réconciliation dont les antennes américaines étaient très fortes. Ils descendent à Montgomery et vont avec lui travailler ces questions de résistance non violente.
Et là, il est peut-être important quand même de préciser que, bon, ces gens sont dépositaires, quelque part, de l'enseignement du Mahatma Gandhi, ou pas seulement.
Alors, c'est vrai que ces gens, sont-ils des dépositaires, en tout cas, ont été marqués par Gandhi. Maintenant, King, lui aussi, avait déjà entendu parler de Gandhi. Il s'y était même intéressé pendant ses études. Il avait lu un certain nombre d'ouvrages de Gandhi. Howard Thurman, qui était un ami de la famille King, avait connu Gandhi. Et peut-être en avait parlé avec Martin Luther King. Mais les premières semaines du boycott, on parle très peu de Gandhi. Parce que d'abord, c'est la relation entre ce boycott, la demande de justice et la foi de l'Église noire qui est au centre. C'est cette relation-là. Et peu à peu, le nom de Gandhi va apparaître dans les discours, va être travaillé. On va relire Gandhi, King va le relire, le faire lire, et du coup, la réflexion s'approfondit.
Tout au long de ces années, finalement, comment est-ce qu'on a pu transmettre ce message de la résistance non violente au peuple noir?
Il y a deux éléments. Il y a, d'une certaine manière, l'apport d'un Gandhi travaillé, lu, médité par King et quelques autres. Et puis, il y a aussi l'extraordinaire tradition religieuse noire américaine. Tradition qui véhicule toute une résistance à l'esclavage d'abord, puis un peu à la ségrégation. Résistance qui, hormis quelques exceptions, s'est toujours faite de façon non violente. Maintenant, cette résistance va devenir peut-être encore plus visible, plus dynamique, occuper davantage l'espace, le terrain, les rues, par des marches et autres sit-in, mais la volonté de conjuguer une exigence de justice avec des moyens appropriés, cela habite depuis longtemps la tradition noire.
On a quand même l'impression pendant ces années 50 et 60 qu'elle devient beaucoup plus visible, cette résistance, qu'elle se manifeste, que quelque part même un Martin Luther King sera prêt à envisager une désobéissance civile afin de véritablement montrer l'iniquité de certaines lois.
Absolument, c'est-à-dire que il va y avoir une progression avec le boycott des bus de Montgomery qui dure donc 381 jours. King et les siens découvrent qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent remporter une victoire. Non pas une victoire contre les Blancs, mais une victoire contre un système dans lequel sont pris, au fond, Noirs et Blancs, de façon différente, bien sûr, mais dans lequel ils étaient pris les uns et les autres. Et cette victoire va faire boule de neige, c'est-à-dire que dès le lendemain, dans d'autres lieux, d'autres boycotts vont commencer. C'est-à-dire que dans beaucoup de lieux, on se dit, il y a là un moyen possible.
On voit aussi que la position de Martin Luther King évolue à ce niveau-là. On a l'impression que durant les années 50, 55, 56, il est quelque part très optimiste par rapport aux vertus de cette résistance non-violente. Il pense que la manifestation de l'iniquité des lois permettra de véritables changements au sein de la société américaine, alors qu'il est très désillusionné à la fin de sa vie.
Les premières années, alors que commence le boycott de Montgomery et jusqu'à la fin des années 50, peut-être même jusqu'à 1963, King pense qu'une fois qu'on a révélé le mal, qu'on a révélé l'injustice, qu'elle est devenue manifeste aux yeux de tous, eh bien, le combat contre ce mal et cette injustice va rassembler une majorité de noirs et de blancs. Or, ce n'est pas le cas. Déjà, à la fin du boycott de Montgomery, alors que King attendait le véritable soutien des églises blanches pour permettre de remonter dans les bus le plus pacifiquement possible, aucun soutien n'est manifesté. Donc King est effectivement très vite désillusionné et se rend compte qu'il ne suffit pas de révéler un mal pour gagner le soutien de tous.
Comment est-ce que Martin Luther King définit sa méthode de résistance non violente?
Oui, le mot résistance non violente est bien le mot de King, hein, alors que par exemple un Gandhi utilisait une expression d'étreinte de la vérité. King lui parle de résistance non violente qu'il développe en 6 points. D'abord, il souligne qu'il ne s'agit pas d'une méthode pour les lâches. Il s'agit donc de résister, ce qui va impliquer une volonté d'accepter la souffrance sans exercer de riposte. Deuxièmement, la fin recherchée, c'est la réconciliation et la rédemption. Ça n'est pas l'humiliation de l'autre, de l'adversaire. Troisièmement, ça n'est d'ailleurs pas tellement l'adversaire qui est l'objet de l'attaque que les forces, disons les forces du mal qui font de cet autre un adversaire. Quant à la souffrance possible, due à l'engagement non violent, elle est considérée comme rédemptrice.
Et là, c'est quand même assez surprenant qu'un protestant soit prêt à qualifier la souffrance de rédemptrice. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça sur les lèvres de Martin Luther King?
Je crois qu'il faut le comprendre en bien précisant que si elle est qualifiée de rédemptrice, elle permet le salut de l'adversaire et non pas de celui qui souffre d'abord. Et là, il y a, je crois, une très grande nuance avec une vision, disons, catholique du terme ou de l'expression.
Donc on retrouve là cet intérêt de Martin Luther King pour cette dépendance les uns à l'endroit des autres, cette sorte de corrélation qui lui est chère au niveau de l'anthropologie.
C'est ça, il y a tout à la fois l'idée que ma vie est liée à celle de l'autre et inversement, et on retrouve aussi le lien au Christ, et la non-violence, la résistance non-violente est alors perçue comme véritablement le chemin poursuivre, sur lequel on doit marcher pour suivre le Christ.
Le 5e point de cette méthode de résistance non-violente est vraiment chrétien, dans le sens où il puise son origine dans l'enseignement du Christ.
Oui, c'est-à-dire qu'au centre de la méthode qu'il préconise, la résistance non violente, réside le principe de l'amour. Love en anglais, mais agapé en grec. C'est-à-dire que cette méthode s'oppose non seulement à toute violence physique, extérieure, mais aussi à toute violence de type psychologique, intérieure.
Cet intérêt de Martin Luther King à l'endroit de l'agapé tranche avec la vision d'autodéfense d'un Malcolm X.
Oui, alors ça c'est tout à fait sûr, puisque pour Malcolm c'était vraiment faire le jeu de l'adversaire que de demander aux Noirs d'aimer et d'aimer l'autre.
Alors il y a un dernier point de cette méthode de résistance non violente, c'est le fait, que l'on peut parfois trouver un peu optimiste, que l'univers penche vers la justice.
Chez King, je ne crois pas qu'il s'agit d'une expression optimiste, quand bien même il l'a certainement été à la fin des années 50, on en a déjà parlé, mais ce point s'articule sur sa conviction que Dieu lui-même est un Dieu de justice et d'amour, et si l'univers penche de ce côté-là, c'est que Dieu agit.
Pour parler de l'amour, la langue grecque dispose encore d'un autre mot, mes amis. Et je ne souhaite pas que vous l'oubliez. Il s'agit du mot agapé. L'amour agapé, c'est plus que l'amour romantique. L'amour agapé, c'est plus que l'amitié. L'amour agapé, c'est une bonne volonté compréhensive, créative et rédemptrice pour tout être humain. C'est l'amour de Dieu à l'œuvre dans le cœur humain. C'est un amour débordant. Il ne cherche rien en retour. Et quand vous essayez d'aimer à ce niveau, vous aimez ceux pour lesquels vous ne ressentez aucun sentiment. Vous aimez ceux pour lesquels vous ne ressentez aucune affection. Vous aimez ceux dont le comportement vous est tout à fait détestable. Vous aimez tout être humain parce que Dieu l'aime. C'est de cela dont je parle dans les relations interraciales. Je ne peux aimer M. Cana, mais Jésus dit « aime-le ». Et l'amour est plus grand que l'affection. L'amour, c'est la bonne volonté compréhensive, créative et rédemptrice pour tout être humain. L'amour, c'est la volonté de parcourir un second kilomètre pour restaurer la communauté brisée. Et oui, l'amour, c'est la disposition intérieure à achever la course afin que d'autres puissent vivre. Voilà l'amour dont nous parlons actuellement. Vous savez que nous pouvons mettre en pratique cet amour à Birmingham dans ces jours et ces années à venir. Et avant que vous le sachiez, nous allons avoir un nouveau Birmingham. Et vous allez transformer ces diverses personnes qui se sont élevées contre vous ces derniers temps. Voilà la signification de l'amour. Voilà la signification de la non-violence.
This is the meaning of love. And this is the meaning of nonviolence.
Dans cette réflexion éthique qui jalonne toute l'existence de Martin Luther King, tout son combat, il y a aussi une distinction assez importante entre la loi, avec un L majuscule, et les lois. À votre sens, Serge Mola, en quoi cette distinction est importante?
Elle l'est bien sûr parce qu'à plusieurs reprises, on va accuser King de s'opposer aux lois et lui dire « mais un chrétien n'a pas à s'y opposer ». Ce à quoi King répliquera qu'au fond, toute loi qui élève la personne humaine est juste. En revanche, toute loi qui n'élève pas, mais qui au contraire inscrit une injustice, une inégalité, est inhumaine. Et il s'agit donc de la combattre.
Cette distinction entre la loi avec un L majuscule et les lois permet à Martin Luther King de plaider la validité de la désobéissance civile.
Oui, ça va être presque le terme de son évolution personnelle. Hein. Et on l'a dit tout à l'heure, il quitte les voies de l'optimisme, il y a des désillusions et peu à peu sa pensée se radicalise. Alors il est évident que du côté de la résistance non-violente, elle aussi, non seulement elle devient ponctuellement une façon de s'opposer à telle loi injuste, telle part du système injuste, etc. Mais peu à peu, elle va étendre son champ d'activité, cette méthode, et King, effectivement, prônera la désobéissance civile. Ce sera tout à fait clair à propos du Vietnam, où il soutiendra celles et ceux qui refusent d'être envoyés au Vietnam.
Martin Luther King sera prêt à payer le prix de son engagement en faveur d'une société déségrégée, en faveur de la paix, puisque lui-même connaîtra de nombreuses reprises la prison.
Oui, non seulement il s'agit d'un prix, mais ça fait vraiment partie de l'engagement. Et à Birmingham notamment, les marches se sont succédées et succédées durant de longues semaines. Celles et ceux qui s'y engagent, qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés, sont non seulement là des adultes, mais également des enfants, au point qu'on réquisitionnera dans cette ville les bus scolaires pour emmener tout ce petit monde en prison. La résistance non violente peut engager tout un chacun, mais l'engage fermement. Il ne s'agit pas d'une promenade, il s'agit justement de ne pas être lâche, il s'agit d'être sûr que chaque participant à telle marche, à telle action, à tel sit-in, s'en tiennent vraiment à ces six points énoncés et n'en viennent pas tout à coup à ramasser quelque objet ou quelque pierre, mais acceptent le prix, acceptent la souffrance qui peut-être va être générée par cette action.
On a l'impression que dans les années 50, cette méthode de résistance non violente est bien appréciée par le peuple noir américain, mais qu'au fil du temps, en tout cas dans les années 65-66, cette méthode devient très critiquée et de moins en moins en vogue.
Je crois qu'il faut bien comprendre que le prix, puisque c'est l'expression que vous utilisiez, le prix est cher, le prix est élevé. Et pour qu'il soit possible d'utiliser dans une longue période cette résistance non violente, il faut vraiment retrouver des forces, et notamment intérieures. Sinon, alors, compte tenu que l'on souffre ou est amené assez souvent à souffrir, à être emprisonné, à être battu, et que l'on ne réplique pas, on risque alors de générer un ressentiment énorme qui un jour peut sortir et dégénérer. D'où l'importance du fondement spirituel de cette résistance non violente.
Et là, concrètement, on retrouve l'Église noire.
Et là, on retrouve l'Église noire. Je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'avant toutes les marches, qu'avant tous les défilés, avant tous les sit-ins, avant toutes les actions, il y a des heures passées souvent dans des églises ou dans des salles de paroisse, des salles de réunion, en prière, en chant, en méditation. À Birmingham, on relit constamment, il y avait une espèce de petite feuille où l'on énonçait les 10 commandements un peu du non-violent, et le premier renvoyait d'abord au Christ, disant « Pénètre-toi du sermon sur la montagne », n'est-ce pas ? Et puis il y avait un certain nombre d'éléments aussi renvoyant à la méthode de Gandhi, etc. Donc, il y a en arrière-fond de cette méthode, pour qu'elle puisse être mise en œuvre, un fondement spirituel. Or, ce qui se passe, c'est qu'au cours des années 60, peu à peu, et notamment beaucoup de jeunes, sont moins liés aux églises. Et du coup, ce fondement s'étiole, et la résistance non violente ne devient plus qu'une méthode, un moyen parmi d'autres. Et du coup, c'est en tout cas ma lecture, ce moyen va générer un ressentiment qui ne trouve plus d'exutoire.
Donc là, l'Église noire ne joue plus son rôle de soupape, si on ose ce terme.
C'est cela. D'une certaine manière, c'est cela. Et à côté, se fait entendre avec de plus en plus de force aussi les revendications ou les discours d'un tout autre temps, d'un Malcolm X, qui lui va notamment souligner un point auquel King sera également attentif peu à peu, c'est la notion de pouvoir.
Donc la notion là de pouvoir noir.
C'est cela. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir les mêmes droits, mais il faut aussi avoir le même pouvoir. Et quand on dit pouvoir, c'est non seulement le pouvoir politique, mais c'est aussi le pouvoir économique. Malcolm dira, c'est bien joli d'obtenir de pouvoir entrer dans n'importe quel restaurant, mais si je dois y entrer pour regarder le blanc manger parce que moi j'ai toujours pas les moyens, où est l'intérêt ?
Nous sommes en train d'entendre celui que l'on qualifie parfois d'anti-Martin Luther King, Malcolm X. Il s'exprime là dans un discours assez célèbre, un discours qui s'intitule en français « Le bulletin de vote ou le fusil ».
C'est la vision blanche d'opposer King à Malcolm. C'est tout à fait net. Un petit signe, si vous vous promenez dans le ghetto noir de Harlem à New York, vous verrez très souvent des photos de Malcolm, parfois une rue même porte son nom, et c'est intéressant parce qu'elle croise le boulevard Martin Luther King, qui lui se poursuit en quartier blanc, alors que la rue Malcolm X change de nom lorsqu'elle atteint ce lieu. Mais pour la communauté noire, c'est vrai que la figure de Malcolm est revenue très très fort en avant ces dernières années, et Spike Lee, le film de Spike Lee, y a aidé. Mais il n'y a pas une opposition si grande entre les deux leaders, quand bien même ils sont extrêmement différents.
Serge Mollat, en quelles circonstances ce discours intitulé « Le bulletin de vote ou le fusil » a-t-il été prononcé ?
Alors c'est un moment clé dans la vie de Malcolm. Il se situe d'ailleurs en avril 64, c'est-à-dire un peu moins d'une année avant l'assassinat de Malcolm X, qui interviendra en février 65. Et il se situe alors que Malcolm est récemment rentré dans un long voyage à l'étranger, qu'il a notamment fait passer par la Mecque. Rappelons que Malcolm était musulman. Et il a, depuis son retour, marqué son désaccord, et il a même quitté le mouvement des musulmans noirs pour fonder dès lors sa propre organisation. Il s'agit donc d'un moment tout à fait clé chez Malcolm, où celui-ci ne se présente plus comme le porte-parole d'une organisation dont le responsable est Elijah Muhammad, mais il s'agit d'un leader qui lance sa nouvelle organisation et qui compte bien occuper autrement le terrain, autrement que les musulmans noirs, tout en étant lui-même musulman et le restant, mais autrement aussi que l'organisation de King et les autres organisations proches. Malcolm est riche, après ce voyage, de nombreux dialogues avec des hommes de gauche de par le monde. Il est riche de ses contacts africains. Il est riche d'une réflexion politique importante, et il ne va pas s'en priver dans ses déclarations.
Si vous aviez en quelques mots à dire quelles sont les relations de Malcolm X et de Martin Luther King, qu'est-ce que vous diriez ?
Souvent, pour comprendre l'un, il faut connaître l'autre. C'est-à-dire que souvent, Malcolm utilise une terminologie qui fait écho à celle de King, sans jamais citer le nom de King. Peut-être l'exemple le plus simple, lorsque Malcolm parle du cauchemar américain, ou qu'il dit même « pour moi, l'Amérique est un cauchemar », je crois qu'on comprend mieux ce qu'il veut dire quand on sait l'importance du mot « rêve » pour Martin Luther King.
Mais votre thèse dans votre ouvrage « Les idées noires de Martin Luther King », c'est de dire que quelque part, Martin Luther King, à la fin de sa vie, c'est-à-dire en 1967-68, est très proche du Malcolm X des années 64-65.
C'est-à-dire, je crois que King a été très impressionné par le regard très incisif, très profond de Malcolm sur la dureté du réel, sur le côté politique. Il a été très attentif à la demande de pouvoir noir. Il a perçu, grâce à Malcolm aussi, il a mieux compris, grâce à Malcolm, la situation des Noirs du Nord, où l'Église noire, justement, joue moins de rôle. Donc il est vrai que King et Malcolm, si Malcolm n'avait pas été assassiné en 65, auraient peut-être dialogué de façon forte.
Martin Luther King est une figure très, très attachante, très forte du christianisme du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous paraît le plus décisif dans l'apport de ce pasteur baptiste noir américain ?
Personnellement, je retiendrai deux éléments. L'un, susceptible peut-être d'interroger, de renouveler la réflexion des églises, au sens où je crois qu'il interroge les églises sur leur manière de conjuguer la justice et l'amour. C'est-à-dire que très souvent, le message évangélique est associé à un message d'amour, et la justice, elle est tellement lointaine qu'elle n'est pas présente. Or King s'interroge, comment conjuguer ces deux convictions, ces deux éléments, de façon indissociable? D'autant plus que pour lui, le Dieu auquel il croit, c'est un Dieu d'amour et de justice. Et puis, King est aussi un être dont la pensée, je crois, interroge bien au-delà des cercles d'Église, et notamment interroge toutes celles et ceux qui ont à cœur les questions de paix, d'intégration. Il les interroge, je crois, sur leur capacité de gérer la violence infligée par l'autre, qu'il soit un individu, que ce soit une structure, et sur la nécessité de trouver un exutoire à la souffrance subie. Sinon, on le soulignait tout à l'heure à propos des jeunes noirs des années 65, 6, etc., sinon ça risque de générer un ressentiment énorme, voire de mener à une attitude suicidaire. Et on verra bien combien les panthères noires, au fond, glisseront vers cette issue fatale.
Non-violent direct action has not only become the accepted method of the civil rights movement, but beyond that, the vast majority of all Americans now support and approve it. What began as a limited expression of protest 10 years ago in Montgomery, Alabama, to integrate a bus line has grown into a national phenomenon. Its history spiraled over a decade. The movement returned to Montgomery and involved in direct action nuns and priests, rabbis, Protestant ministers and laity of every race, social class and age. Many observers have been surprised and even shocked by these methods. The enemies of the civil rights movement have been quick and vocal to denounce them as undemocratic pressure tactics and even un-American in philosophy. Yet the truth is that no one can scorn nonviolent direct action or civil disobedience without canceling out American history. The first nonviolent direct action did not occur in Montgomery. Its roots go back to the American Revolution, the boycott against British tea, culminating in the Boston Tea Party. It was the favorite weapon, the suffragette movement, when women had to fight for their right to vote. It was a technique the trade unions employed to organize the mass production industries. Many here tonight can recall the events of the 30s, when federal court injunctions crippled and stifled union organization. Even a Wagner Act could not facilitate a breakthrough. When the now historic sit-down strikes burst forth in 1937, a new national attitude congealed. Through the Congress of Industrial Organizations, a new major movement was born. Then, too, the nation was warned that the profit system was a target of this new form of struggle. Nearly 3 decades later, we're able to see that the profit system was not only unimpaired, but became significantly strengthened. If there is some confusion about the origins of nonviolent direct action, that is even more about civil disobedience. The two methods are not synonymous. Civil disobedience, in its true sense, has not been employed by Negroes in their struggle. To utilize civil disobedience in its authentic historical form